Tout le monde s'en souvient. Ce matin-là, au réveil, la nouvelle tournait en boucle. Quelqu'un était tombé en dehors de la Terre. Pas dans un trou, pas dans une crevasse, pas dans un abîme. Non, en dehors, à l'extérieur, au-delà. Et c'était la preuve matérielle, irréfutable, de ce qu'on observait déjà depuis un certain temps. La Terre n'était plus ronde, elle avait été aplatie. L'aplatissement était déjà bien avancé et on était obligé de se demander jusqu'où ça irait. C'était certainement le résultat d'un processus complexe, quoique prévisible, annoncé par certains, traité bien entendu de pessimistes, de catastrophistes, etc. N'empêche, c'était là. Il y eut un mouvement de panique mondial et bien compréhensible. Les parents surtout étaient hystériques, se faisaient entendre dans les médias complaisants et sur tous les réseaux sociaux, parlaient à tort et à travers de leurs enfants, des dangers qui les menaçaient. Les gouvernements sonnèrent l'alarme et décrétèrent qu'ils prenaient toutes les mesures qui s'imposaient. Mais quelles mesures? D'abord des mesures simples, évidentes. On se mit d'accord pour faire construire un mur immense autour de la Terre. C'est la protection minimum et nécessaire, avec sur tout le long des haut-parleurs gigantesques pour avertir que c'était la fin, le bout, l'extrémité. Malgré quelques protestations habituelles sur le coup, les subventions furent votées et les constructions entreprises.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Il est possible que ce soir, entendant ces phrases, des auditeurs triomphants appellent immédiatement les membres de leur réseau pour partager la bonne nouvelle. Donc ils avaient raison, la Terre est plate et non pas ronde comme le prétendent les Illuminati et autres pédophiles satanistes. Grâce aux réseaux sociaux, nouvelle université populaire mondiale, ceux qui pensent qu'il est périlleux de se pencher au bord mystérieux du monde occidental y ont même gagné un nom générique. Mais non, voyons, ce ne sont pas des imbéciles, ce sont des platistes. Car aujourd'hui, chacun l'a expérimenté. Toutes les opinions se valent. La science est contestée par les ignorants, pour qui les preuves sont des manipulations. Un obèse aux cheveux orange l'a démontré. Le mensonge et l'insulte tiennent lieu d'argumentation et permettent d'accéder à la célébrité. Brave New World. Parfois, pour parvenir à se faire entendre dans cette cacophonie planétaire, l'évidence, la vérité nue, la pensée complexe, la nuance, toutes choses en voie de disparition, doivent emprunter un autre chemin que le simple énoncé. La littérature, et avec elle la fiction, nous ouvre toujours les chemins de la liberté. Penser avec la fiction peut être parfois une joie sauvage qui nous permet de redonner du sens à un monde où les mots alors retrouvent leur poids et leur signification. En 2019, en pleine crise des Gilets jaunes, Leslie Kaplan avait publié « Désordre », petit conte voltairien dans lequel des anonymes assassinaient des puissants au cri de « ça suffit les conneries ». Aujourd'hui, comme une sorte de suite bienvenue, elle nous revient avec « L'aplatissement de la Terre » paru chez POL, 8 petits textes féroces et joyeux, poétiques et politiques, dont la lecture nous procure un vrai shoot d'énergie. Bonsoir Leslie Kaplan.
Bonsoir.
En 2019, nous avions parlé de ce désordre. Et je vous avais demandé si c'était un genre littéraire qui dorénavant s'imposait dans cette sorte de confusion totale qui est devenue le monde actuel. Est-ce que c'est une forme d'écriture qui vous a permis de survivre en temps désespéré?
Écoutez, j'ai bien entendu ce que vous avez dit sur la joie de la fiction et... Oui, certainement. C'est-à-dire pouvoir prendre une certaine liberté avec la réalité tout de même tenant compte de la réalité, je pense que ça fait un bien fou et que ça procure effectivement un grand sentiment de joie parce qu'on se sent plus libre qu'on ne l'est, malheureusement, en réalité. Donc, je crois, oui, que ça continue. C'est sûrement pas le seul genre possible, mais certainement, il y a un moment là où c'est vraiment très agréable de le faire, de l'écrire.
Alors, je le disais, ce nouveau livre, L'aplatissement de la Terre, suivi de Le Monde et son contraire, ce sont 8 textes. Tous n'ont pas été écrits pendant la pandémie. Le premier, L'aplatissement de la Terre, oui. Il est né un jour, comme ça, sous votre plume, comme quoi? Comme un cri de rage.
Écoutez, ça s'est imposé, voilà. L'aplatissement de la Terre, c'était là. Alors, évidemment, pour moi, l'aplatissement résonnait avec le mot platitude, c'est-à-dire que, quelque part, ça continue ce qui était dans désordre, c'est-à-dire ça suffit, la connerie. Et que cet aplatissement, cette platitude, certainement vient du fait que, oui, on est toujours dans le même moment mondial où finalement on pense en binaire. Bon, on pense en binaire qui est un peu la façon de penser du marché. Bon, j'achète, j'achète pas, ça me plaît, ça me plaît pas, c'est bien, c'est mal. Bon, enfin, d'une façon vraiment très primaire. Alors je crois que oui, ça s'est imposé.
D'autant plus, Leslie Caplan, que dans ce texte, L'aplatissement de la Terre, on y retrouve alors des thèmes qui sont employés de façon très très sérieuse. D'abord, cette idée d'entourer notre monde d'un mur, évidemment, ça. Il y a des références, on pense à ce qu'on a entendu pendant 4 ans de Donald Trump.
Oui.
On pense aussi aux réseaux sociaux qui mettent sur le même plan quelque chose de scientifiquement prouvé et son contraire, justement. Comme si, dorénavant, se faire une idée était devenu quelque chose d'absolument impossible. Et d'ailleurs, dans votre texte, vous le dites à un moment, l'expérience n'a plus cours.
Oui, mais je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui, disons, est de plus en plus là, c'est-à-dire que se référer à une expérience humaine qui est nécessairement complexe, qui se joue nécessairement sur plusieurs plans très différents, le passé, le présent, le futur, toutes les relations, enfin, donc en effet la question de la complexité, ça devient de plus en plus difficile à penser, à en tenir compte, à l'échanger, à le partager. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose, bon, qui est intéressant de souligner et d'essayer de, bon, bah oui, d'aller contre, oui.
Et puis c'est aussi, et beaucoup d'écrivains en ce moment, Leslie Caplan le disent, il y a un moment où la publication de tribunes, d'essais, de discours étayés ne rentre même plus dans la perception de ceux qui sont submergés en permanence par des informations contradictoires. Et du coup, le texte court, percutant, satirique et argumenté politiquement par l'absurde reprend toute sa force. On va écouter tout de suite un autre passage de votre livre.
La construction du mur mondial allait prendre du temps. En attendant, chaque pays mit en place un confinement relatif. Pour combien de temps, c'était difficile à dire. Mais c'était nécessaire pour prévenir les accidents, les chutes dans le vide, voire les suicides. Organiser le pessimisme. Le mot d'ordre fit fureur. Mais on perdait de vue les causes, les raisons, les origines de l'aplatissement. On tournait autour du pot. Il fallait pourtant s'attaquer aux racines du mal et répondre à la question angoissante. Était-ce irréversible et jusqu'où ça irait? C'était sans doute trop inquiétant pour qu'on garde le nez dessus. Parce qu'en fait, les causes étaient claires pour tous. Personne ne contestait. Unanimité. La Terre s'était aplatie, progressivement et de façon continue, par la masse énorme qui grandissait sans cesse et qu'on n'arrivait absolument pas à éliminer, dont on n'arrivait absolument pas à se défaire, de bêtises, stupidités, imbécilités, idées reçues, clichés, tautologies, discours vides, mots creux, bref, de platitudes, le terme s'imposait, oui, de platitudes qui s'échangeaient à chaque instant et finissaient par avoir un effet. Et comment non? Les idées sont une force matérielle, c'était prouvé depuis longtemps. Ce qui n'était pas évident, mais alors pas du tout, c'était comment en sortir? Comment s'attaquer à cette masse lourde, compacte, dense, de bêtises? Une par une? Mais ça prendrait des siècles. Que faire? Le mot d'ordre de Lénine revenait, mais bien insuffisant devant l'ampleur de la catastrophe actuelle. Ce qui était clair pour tous, c'est que toutes ces platitudes étaient en rapport avec, voire induites, par l'actuel système qui dominait le monde, qui n'avait pas l'air de s'affaiblir et qui avait imposé depuis longtemps une façon de penser simpliste, réductrice, binaire en somme, sur le modèle unique. J'achète, j'achète pas, devenue la base des échanges humains.
Leslie Kaplan, que faire, comme disait Vladimir Ilitch, effectivement, que faire avec cette masse hallucinante de clichés, de bêtises, de platitudes qui nous envahit? Que faire? Vous avez une réponse dans ce texte, organiser le pessimisme.
Bon, ça c'est un mot d'ordre d'ailleurs que je n'ai pas inventé, qui existe, qui était d'ailleurs, qui est lié à une certaine gauche radicale. Et je crois que ça dit bien... Enfin, il me semble, en tous les cas, comment je l'interprète, c'est-à-dire tenir compte de l'état épouvantable des choses dans lequel on est, d'une façon ou d'une autre, actuellement et de façon mondiale, et essayer d'organiser quelque chose qui dépasse ça, bon, enfin qui soit autrement. Alors, en effet, ça n'est pas évident, et bon, alors les méthodes peuvent varier. Je pense que chacun peut essayer de faire à sa façon. Certainement, ça va passer par des voies inédites. Pour moi, bon, enfin, dans les textes proposés, il y a beaucoup sur l'art, sur la littérature, le cinéma. Bon, mais c'est aussi le refus. Il y a dans un des textes, le personnage qui parle refuse vraiment la question de l'évaluation. L'évaluation qui est tellement là présente et qui ne veut strictement rien dire. Parce que les critères sont, à mon avis, complètement idiots. Bon, bah, c'est un refus. Bon, voilà, non. Pas question.
Alors justement, pour cette organisation du pessimisme, pour ce refus, quels sont les outils? Vous aviez écrit un livre qui s'appelait « Les outils ». Quels sont les outils de l'écrivain aujourd'hui? Comment les voyez-vous? Quels sont vos moyens à vous, écrivain, Leslie Kaplan, d'organiser ce refus, de le faire entendre? Par quelle approche?
Alors là, c'est... peut-être difficile d'en parler, mais je sais que ça passe toujours par des détails. Disons par un soin, une attention aux détails. Si je pense à un personnage en train de refuser, bon, ce qui m'intéresse, ça va pas être un discours qu'il va faire, mais vraiment des choses extrêmement concrètes, précises, qui peuvent d'ailleurs être parfois contradictoires. Bon, c'est-à-dire, c'est vraiment essayer de répondre au monde qui est justement très compliqué, très complexe et pas du tout aplati réellement, par un soin et un souci des petits aspects qui mèneront évidemment à réfléchir au plus grand.
Alors, vous parliez il y a un instant, Leslie Kaplan, de cette folie de l'évaluation générale, qu'on évalue le plombier qui vient changer un joint et on évalue le chef d'entreprise, puis on évalue la caissière. Enfin, on passe notre vie à mettre des notes à tout le monde. Enfin, en tout cas, on nous demande de mettre des notes. On peut refuser aussi. Oui. Et on se dit qu'il y a en ce moment une difficulté juste à entendre, à écouter et à trouver les bons mots pour répondre. On va, avant d'en parler avec vous, on va écouter la philosophe Cynthia Fleury qui parle justement de l'importance de trouver les bons mots, donc d'avoir une pensée complexe.
Si vous voulez, à partir d'un moment où on a un réductionnisme de tout, réductionnisme des signes, réductionnisme des espaces où on peut s'exprimer, instantanéité, décontextualisation, c'est-à-dire que parler, c'est aussi parler dans un milieu particulier. C'est pas tout d'un coup dire « Ah, j'ai attrapé ça et je sais pas du tout de quoi on parle et tiens, je vais me donner l'occasion de réagir quand même. » Donc tout ça fait qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus tout simplement comprendre ce qui est dit. Donc le temps, c'est absolument nécessaire pour comprendre. L'espace et le temps, c'est nécessaire pour comprendre. Je vais faire une paraphrase d'un texte de Walter Benjamin, c'était dans Pauvreté et expérience, c'était au sortir de la Première Guerre mondiale, il disait le cours de l'expérience a chuté. Je dirais que le cours de la parole donnée a chuté. C'est-à-dire que non seulement, si vous voulez, la parole, ça veut quasiment plus rien dire, mais en plus, quand on vous la donne, vraiment, ne la prenez pas, parce qu'on ne vous donne plus rien. Donc, c'est fondamentalement, on a aujourd'hui perdu cette idée que premier outil de régulation de la violence, silence. Premier outil de performatif, c'est la parole. Donc si vous désubstantialisez sans cesse la parole par de la novlangue, par du réductionnisme, par de l'insulte à la place d'un argument, etc., ben, vous videz la démocratie de sa force. Et ce qui m'a fait comprendre aussi ça, c'est que le chemin de cette parole, il est à la fois constitutif de la santé psychique et il est constitutif de la santé démocratique. Je ne veux pas dire que tout se ressemble et que tout est analogique, mais il y a un chemin par la verbalisation et par le langage qui est aussi important pour la question collective que pour la question individuelle.
C'est vrai, Leslie Kaplan, et on sait que Cynthia Fleury, en plus d'être philosophe et psychanalyste, l'importance des mots, mais des mots regonflé de sens, parce que à l'heure actuelle, des mots, il y en a partout. Mmh. On succombe sous une avalanche de mots, les mots du gouvernement, les mots des médecins, les mots de tous ceux qui sont devenus des experts en pandémie, mais des mots avec du sens. Mmh. C'est justement là où on retrouve le geste d'écrire sur une page des mots regonflés de sens.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'écouter, ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire, il y a une façon de réduire les mots, même si on en emploie beaucoup, et les mots deviennent vides. Bon, c'est aussi ce que j'ai appelé la civilisation du cliché. Bon, c'est-à-dire vraiment le cliché, c'est vide et c'est agressif aussi. Bon, enfin, c'est une façon aussi de matraquer l'autre. Ça, il faut pas l'oublier. Je crois que c'est important. Alors qu'une vraie parole et un vrai dialogue se déploie dans un effet, comme Cynthia Fleury l'a dit, dans un certain espace et un certain temps. Et ça, il faut absolument pouvoir l'avoir, le mettre en place, l'organiser aussi. Bon, alors c'est sûr que quand on est devant sa page et qu'on écrit, on peut étirer le temps, étirer l'espace d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, peut-être on a une sorte de responsabilité pour rendre aux mots vraiment un sens plein et pas du tout les filocher dans du rien du tout.
Y compris par l'absurde, j'imagine, dans ce genre de texte, c'est-à-dire montrer à quel point les mots mal employés
tout à fait.
Finissent par donner de l'absurdie.
Mais tout à fait, absolument. Mais ça, c'est quelque chose... Bon, bah, j'ai écrit, par exemple, Louise, elle est folle, qui est vraiment un dialogue autour de la question de la perte de l'expérience, du cliché. Mais c'est quelque chose que je crois est là depuis même un moment. Certainement maintenant, c'est enflé d'une façon énorme. Mais Serge Danet, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, un critique de cinéma formidable, qui est décédé malheureusement depuis longtemps, il avait déjà parlé de la perte de l'expérience. Et ça, c'était dans les années 90. Bon, et je crois que ça s'est vraiment lié à une aggravation de ce système dans lequel on est.
Et puis se raccrocher à toutes ces choses indispensables qui nous constituent, dont la musique.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and us feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy now when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me now. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the world. One day up near Selena's long, I let him
next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, Lalonde, when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby.
Vagabonde sur France Inter.
Si le monde était autrement, j'ai voulu. Mais la vie est comme elle est. Et puisque c'est comme ça, puisque j'étais né dans un certain pays, à une certaine époque, je me trouve ici. Il n'y a pas moyen d'éviter, même pas une responsabilité, mais les faits. Si je suis écrivain, je suis une espèce de témoin. Et il faut que je fasse une espèce de témoignage pour les gens qui ne peuvent pas parler. Franchement, il y a des moments où on doute de tout. Et on n'a pas du tout envie d'écrire parce que ça a l'air d'être tout à fait inutile et même lâche. Mais par contre, moi je me rends compte que je ne suis pas fait pour être politicien, je ne suis pas un guerrier. Donc, je suis forcé de faire une espèce d'acte de faith, un acte de confiance. Et supposant que il faut que je fasse mon travail parce qu'il y a un jour qui va venir où ça peut être utile.
Leslie Kaplan, dans ce livre « L'aplatissement de la Terre » et les autres textes, vous avez semé, comme vous le faites assez souvent, des petits cailloux blancs, les choses sur lesquelles vous vous êtes construite, sur laquelle vous construisez votre écriture. On a entendu Janis Joplin, il y a cette musique des années 70 qui est une musique pleine de force, d'espoir, mais de révolte, savoir dire non et pourquoi on le dit. Et puis il y a les voix d'écrivains comme James Baldwin que vous avez connu quand vous étiez enfant, c'était un ami de vos parents. Et il dit quelque chose qui évidemment doit trouver son écho en vous, c'est être écrivain, c'est être témoin. C'est avoir le sentiment que chaque mot dans une phrase est important pour changer la phrase, le livre, le monde aussi. Mmh. Il dit « je n'ai pas la force pour être un guerrier », mais on peut écrire en étant guerrier. C'est aussi des choses comme ça, j'imagine, que vous recherchez.
Ah oui, mais ça, James Baldwin, c'est quelqu'un que j'ai lu, que je relis, parce qu'il a une humanité, un humanisme tellement ouvert, tellement accueillant, tout en ne lâchant jamais rien du point de vue de sa dignité, de la dignité des Noirs américains qu'il estimait bafouée à son époque, même s'il y avait tout de même une société assez ouverte et libre, etc. Et ça, je crois que c'est vraiment tellement important. Et il avait aussi réellement une très grande foi dans la littérature. Alors ça, c'est ce que vous dites. Vraiment, pour lui, écrire, c'était quelque chose qui donnait vraiment une responsabilité et c'était une façon aussi de s'occuper des autres. Bon, c'est vrai que il avait sûrement pas un tempérament agressif et guerrier, mais il savait être aussi très très ferme et très dur quand il le fallait.
Alors dans certains des textes que vous avez publiés sous ce titre, L'aplatissement de la Terre, Leslie Kaplan, il y a des passages entiers pour rappeler l'importance de la culture. Comment trouver d'abord des voix amicales, c'est comme celle de Baldwin. Comment trouver des mots qui nous permettent à nous de nous exprimer. Comment nous aider à penser ce que nous pensons en fait. C'est dans les livres, mais c'est aussi dans les musées, toujours fermés. Bon, les librairies sont réouvertes, mais on va plus au théâtre. Vous êtes aussi écrivain pour le théâtre. Et en ce moment, ces outils qui nous permettent de nous révolter, de nous constituer, de penser avec, eh bien, ils sont de plus en plus restreints.
Ah ben oui, c'est-à-dire, moi je trouve que c'est, il n'y a pas de raison, je le dirais comme ça, je ne vois pas pourquoi les salles de théâtre et les salles de cinéma sont fermées. Et je ne comprends pas la raison pour laquelle on peut prendre le métro, prendre le train, et on ne peut pas aller ni au cinéma ni au théâtre. Et je suis obligée de penser qu'il y a tout de même quelque chose du métro-boulot-dodo, et on se retrouve chez soi devant la télévision ou pas, mais bon, qui n'est pas du tout, enfin c'est pas normal, ça n'est absolument pas normal, je trouve ça tout à fait d'ailleurs scandaleux.
Faire tourner l'économie, mais surtout ne pas faire tourner nos cerveaux, parce que ça peut être dangereux, on peut réfléchir.
Mais exactement, tout à fait, absolument.
On va écouter une autre lecture d'un de vos textes, Leslie.
L'art progressait, du moins les valeurs en bourse de tous les objets d'art sans exception. La technologie prospérait, elle avait toujours prospéré, elle continuait. Infinité de gadgets, de produits dérivés, de machines diverses, ça aidait à faire passer la pilule de l'ennui. Parce que l'ennui était magistral. Mais alors, magistral. On le comprenait mal, on le constatait, c'est tout. Certains parlaient de mal du siècle, mais on en était seulement au début de ce siècle. D'autres de crise de civilisation. Mais crise de civilisation, c'était vague, confus, intellectuel. D'autres encore, moins romantiques, essayaient d'analyser en quoi consistait cet ennui général. Manque d'élan, d'impulsion, de désir, sentiment que tout se vaut et présente peu d'intérêt. On parla même, pendant un temps, du manque du manque. La formule venait d'un psychanalyste et connut un certain succès. L'ennui devint un motif majeur en peinture, y compris pour les toiles abstraites. Ennui en bleu et jaune, d'un artiste peu connu, fut vendu à un prix jugé ridicule, voire obscène par certains. Et il y eut des romans, des films, des pièces de théâtre sur le sujet. La publicité, toujours à la pointe, utilisa le thème de façon subliminale. Et la plupart des clips vantèrent un fromage, des chaussures ou une résidence secondaire d'un ton neutre, languide, traînant, en tout cas absolument pas intéressé. Un roman plusieurs fois primé, La lassitude de la valse, eut pour cadre un grand château où un milliardaire célébrait son mariage et où les invités tournaient en rond dans les salons, les couloirs et les chambres en bâillant. Les domestiques, les cuisiniers, les fournisseurs, les gens du village bâillaient aussi en travaillant, et la plupart des médias trouvèrent particulièrement audacieux, voire révolutionnaire, que le peuple soit ainsi représenté de la même façon que les puissants. D'autres jugèrent le roman naturaliste et critiquèrent son manque d'idéal. Au théâtre, la mise en scène d'une pièce d'un auteur à succès, « Ennui, mon beau souci », attira un public de plus en plus nombreux, qui connaissaient les répliques par cœur et les anticipaient en hurlant. On put s'interroger si c'était encore du théâtre, mais cette question revient toujours quand quelque chose d'inédit se produit, et on devait reconnaître que l'auteur avait imaginé des dialogues tout à fait pertinents. « Je t'aime. » Tu m'ennuies. Je t'ennuie, mais je t'aime. Des sociologues soulignèrent que tout ça n'était pas à proprement parler nouveau, mais ajoutaient que l'ennui était auparavant réservé aux élites. Les classes populaires étaient trop occupées à trimer pour s'ennuyer. Les contenteurs habituels de la démocratie trouvaient leur compte dans cette analyse. Voyez le beau résultat de votre système. Tout le monde a le droit à l'ennui. Mais la mauvaise foi était patente.
Leslie Kaplan, après l'aplatissement de la Terre, le deuxième texte d'ailleurs de ce livre s'appelle « Traité de l'ennui », comme si effectivement cette société désenchantée, on entendait Janis Joplin chanter tout à l'heure, c'est vrai que dans les années 70, on avait l'impression que le monde allait vers le mieux, que se battre justement pouvait apporter des améliorations. Aujourd'hui, c'est pour les intellectuels, souvent, tout se vaut, l'ennui, à quoi bon, voilà.
Oui. Oui, oui. Ben, ça, certainement. Il y a un désenchantement certain. Et aussi l'idée que la pensée, après tout, l'ennui a pour contraire la pensée, et que la pensée, ce serait réservé à une élite. Mais pas du tout. La pensée, c'est pour la vie.
Alors, vous citiez tout à l'heure Leslie Kaplan, Serge Danet, qui a beaucoup compté pour vous. Vous êtes une cinéphile exigeante. On va, pour le plaisir, écouter ce que dit justement Serge Danet à propos de ce cinéma qui peut, au fond, si on aligne 15 ou 20 titres de films, raconter notre évolution de l'enfance à l'âge adulte.
C'est l'enfance, le cinéma. C'est pas l'adolescence. Le cinéma, c'est l'enfance. C'est-à-dire, c'est un sentiment beaucoup plus intense et beaucoup plus insouciant et beaucoup plus grave de ne pas faire partie du monde. Ou d'être toléré par extrême justesse dans le monde tel qu'il est. Et on sait à l'âge de 5 ans. Enfin, c'est comme quand Duras citait Queneau qui disait un écrivain, il sait qu'il l'est à 7 ans. S'il n'a pas écrit à 7 ans, c'est pas la peine qu'il insiste. C'est excessif, mais c'est vrai. Ça veut dire que on sait dès la première entrée en cours de récréation, la première année d'école primaire, qu'il y a des gens avec qui on sera pas copain et qu'on va faire une bande à 3-4 dans un coin et ce sera les introvertis, et peut-être plus tard les homosexuels, c'était le cas pour moi. En tout cas, les cinéphiles, évidemment, ils vont pas partager leur trésor. Ils savent qu'ils appartiennent à une autre version du monde ou de l'espèce humaine. C'est pas fuir. Moi, j'ai jamais fui, j'ai aucune imagination. Donc, les gens qui fuyaient, adolescents, gamins, il y a plein de façons de fuir. Dans le fantastique, dans la science-fiction, dans un monde mieux, les utopies politiques ou religieuses. Moi, ça m'a jamais intéressé parce que j'ai aucune imagination. Je trouve toujours le monde tel qu'il est formidable. Et je trouve formidable qu'on m'ait laissé l'habiter, finalement. Et plutôt, sans que j'y perde trop de plumes, parce que j'ai à peu près fait ce que j'ai voulu. Mais c'était l'idée, non, on aura ce monde-là, mais on l'habitera enfin. Voilà, moi, l'essence de ma cinéphilie, on l'habitera enfin. Mais ce sera le monde, ce ne sera jamais la société. De la société, il n'y a que des choses horribles à attendre.
Leslie Kaplan, il y a un texte dans votre livre « L'aplatissement de la Terre » qui s'appelle « Une femme sort du cinéma ». Et on sent bien que c'est en fait un texte assez autobiographique. Vous êtes une enfant du quartier Montparnasse. Et dans la rue Jules Chapelain, il y a un cinéma que vous fréquentiez. Il y en a toujours un, d'ailleurs. Et comme Serge Danet, au fond, et on le comprend en lisant ce texte, le cinéma raconte aussi pour votre génération, mais pour vous personnellement, par quelle étape vous êtes passé? Qu'est-ce que c'est que la constitution d'un intellectuel à travers le cinéma?
Mais c'est vrai que le cinéma a énormément compté pour moi. Bon, j'ai élevé à Paris, mais dans une famille américaine, on allait au cinéma très facilement. Bon, et c'est vrai que les films de Charlie Chaplin, par exemple, dans mon enfance, c'était vraiment important, mais aussi les westerns, des vraiment très bons westerns. Et après, ben, j'ai vraiment continué, c'est-à-dire étudiante, j'étais très dans les salles du Quartier Latin, le Champollion, etc. C'est vraiment des choses, bon, la nouvelle vague, bien sûr, les films d'Antonioni, de Fellini à l'époque, etc. C'était une façon de élargir le monde dans lequel on était. Et ça, je comprends tout à fait ce que veut dire Serge Danet, d'essayer d'habiter au maximum le monde, tout en étant opposé à ce que la société pouvait représenter.
Alors, les derniers textes de votre livre, Leslie Kaplan, sont écrits sous forme de monologue comme pour un personnage. Et d'ailleurs, il y a un texte qui s'appelle Le monde et son contraire, qui est un texte écrit spécifiquement pour un comédien, Marc Bertin. C'est un spectacle de théâtre qui devait être mis en scène, qui est mis en scène par Élise Vigier, mais qui aurait dû se jouer ces temps-ci. Et bien, avec toute la fermeture des théâtres, on attend. La troupe répète, Marc Bertin répète. C'est un texte absolument fascinant parce que c'est un comédien qui ressemble physiquement à Kafka. Et le texte, vous le dites, le comédien raconte qu'il a ressemblé à Kafka. Et c'est au fond une variation sur Kafka aujourd'hui pour nous. Kafka reste, en plus dans ce monde absurde dans lequel on vit, reste une lecture nécessaire.
Mais je pense que oui, en effet. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui bon, par la force vraiment de sa pensée poétique, politique, narrative, a vraiment anticipé d'une façon vraiment extraordinaire sur ce que devient notre monde, que ce soit la question de la bureaucratie, que ce soit la question de la fausse justice, que ce soit en fait le... Je dirais le totalitarisme rampant qui menace tout de même toujours. Kafka est réellement toujours là, et il est aussi toujours là parce que ben, c'est une de ces phrases qui m'a vraiment accompagnée. Il fait ce saut, comme il dit, écrire c'est sauter en dehors de la rangée des assassins. C'est-à-dire, c'est vraiment une façon, une voie vers une forme de libération, par la pensée, puis certainement aussi par des actes. Et ça, je crois que c'est vraiment, oui, ça reste pour moi essentiel.
Bon. Mais d'ailleurs, ne serait-ce que la métamorphose, si en ce moment on c'est peut-être pas un texte très très euphorisant, mais lire la métamorphose à l'heure actuelle, ça dit tellement de choses le monde dans lequel on doit, même si on est tombé sur le dos, on doit se débattre.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que, bon, on se réveille transformé en vermine, comme Grégor semble ça. Bon, c'est vraiment pas drôle, mais c'est aussi le fait de le dire, le fait de l'écrire, permet à la fois de l'humour, l'humour contre la terreur, faut quand même aussi marquer ça, et se métamorphoser aussi peut-être autrement. C'est aussi la possibilité de penser autre chose que ce qui nous arrive.
Et de devenir quelqu'un d'autre. Mais d'ailleurs, Kafka disait que quand il lisait ces textes les plus qui nous terrifient, il riait à gorge déployée. Oui. Donc, on en revient au début de notre conversation, Leslie Kaplan, sur la force du rire, de l'ironie et de la nécessité et d'écrire et de lire des textes qui nous font rire, même si c'est fait avec des bouts de réel qui sont pas très drôles.
Oui.
Alors, sur à propos de Le Monde et son contraire, je voudrais quand même signaler que sur le site de l'émission, nos auditeurs pourront trouver le lien pour se rendre sur le blog, le journal sonore qu'a tourné notre amie Perrine Malinge, qui a longtemps travaillé avec nous à L'Humeur Vagabonde, qui est allée suivre l'équipe d'Élise Vigier, Marc Bertin, parce qu'ils sont en ce moment même en train de peaufiner cette pièce qui, on croise les doigts, devrait se jouer du 17 au 29 mai à Paris, au Plateau Sauvage.
Oui.
On espère que ça sera possible.
On espère.
En tout cas, Leslie Kaplan, merci infiniment d'être venue nous faire rire et réfléchir ce soir. On en a drôlement besoin. Donc, je rappelle que votre dernier texte, L'aplatissement de la Terre, suivi de Le Monde et son contraire, vient de paraître aux éditions POL. Merci à vous, Leslie.
Merci à vous.
Et bon 1er mai de révolte.
Merci.